France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Il était une fois à Hollywood, c'est aujourd'hui que sort en salle le documentaire L'Intouchable, Hervé Weinstein, par la réalisatrice américaine Ursula McFarlane, un film sur le règne, la chute et la disgrâce du producteur de cinéma, fondateur avec son frère Bob de la société de production Miramax, et dont le procès aux États-Unis pour harcèlement, agression sexuelle et viol doit s'ouvrir le mois prochain. Hervé Weinstein est accusé au total par près d'une centaine de femmes, et c'est tout le système que le producteur tout-puissant avait mis en place autour de lui pour s'assurer de l'impunité la plus complète et la plus longue possible. C'est tout ce système qui apparaît dans le film, film qui aurait pu s'intituler « L'univers pitoyable » d'Hervé Weinstein, pour reprendre le titre ce matin du journal L'Humanité. Cette affaire, Weinstein, qui a provoqué à travers le monde une déflagration, une prise de conscience et la prise de parole de très nombreuses femmes victimes à différents niveaux de violences sexistes via le mouvement MeToo, cette affaire a été le début d'une réaction en chaîne jusqu'à hier encore, et cette information selon laquelle le chanteur lyrique à l'envergure internationale Placido Domingo est accusé dans une enquête de l'agence Associated Press d'avoir harcelé sexuellement 9 femmes qui ont décidé de témoigner. Bonjour Laure Murat.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin, historienne et essayiste, professeure à l'Université de Californie, Los Angeles, spécialiste de l'histoire de la littérature. Vous êtes l'auteur d'un essai paru chez Stock l'an dernier, « Une révolution sexuelle ?» Réflexion sur l'après Weinstein. Vous posez la question dans cet ouvrage de savoir si MeToo allait pouvoir déboucher sur un changement durable ou pas, si le mouvement allait porter des fruits dans le temps long, si en passant du moment au mouvement, ça aller lancer une révolution. À tout le moins, on voit ce matin avec cette nouvelle affaire Domingo, et puis l'affaire Epstein aussi, qu'il en faut encore bien d'autres affaires, qu'il y a d'autres révélations à faire. Vous voyez un début de réponse à votre question dans ces nouvelles révélations ?
Oui, je vois un début de réponse dans la durée que vous évoquiez là, il y a une minute. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie qu'il y ait tout le temps des affaires, c'est pas tellement la question. Ce qu'il faut, c'est analyser le système qui est en place. Harvey Weinstein n'était pas une exception. Je crois que c'était une caricature, en quelque sorte. Alors, on va se rendre compte qu'il y aura d'autres mini Weinstein dans le monde, ou des plus gros, peut-être, j'en sais rien. Mais l'accumulation des affaires va sans doute donner une sorte de prise de conscience qu'il faut ensuite c'est analyser cette structure pour mieux la démonter et analyser le mécanisme de la misogynie, de la domination qui rend tout ça possible. Je crois que une des qualités du film sur l'intouchable Harvey Weinstein, c'est de montrer que ce système impliquait beaucoup de gens à leur corps défendant, sans mauvais jeu de mots, y compris des assistants d'Harvey Weinstein, y compris des témoins, y compris des gens qui savaient sans savoir, etc., et qui se sentent aujourd'hui très coupables. Donc, je pense que ça, c'est intéressant aussi. Voir à quel point les gens sont impliqués, comment ils sont impliqués et comment ils réagissent.
On va revenir sur ce système, on va revenir sur les témoignages que vous évoquez, témoignages aussi de victimes qui sont très forts, mais on voit quand même que toute parole n'est pas encore libérée. Laure Murat, ça prend énormément de temps, bien sûr, mais que des affaires aussi emblématiques que celles dont on parlait il y a un instant à l'Opéra de Los Angeles puissent aujourd'hui encore arriver comme ça dans l'actualité montre que le chemin est très compliqué.
Le chemin est très compliqué, il est très très long, et je crois que quelqu'un comme Placido Domingo, qui est quelqu'un d'extrêmement important dans le monde lyrique, a été pendant très longtemps un intouchable. Alors attention, il y a aussi la présomption d'innocence,
bien sûr.
On ne connaît rien encore de cette affaire. Mais il est bien évident que, bon, Luc Besson, par exemple, il y a eu des petites choses, mais finalement qui n'ont pas vraiment donné suite. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres affaires en cours, plus ou moins confidentielles, qui éclateront pas d'ailleurs, on n'en sait rien. Mais on n'est qu'au début du chemin, ça c'est très net.
Mais Placido Domingo, pour revenir à lui, pour sa défense, explique n'avoir jamais eu de relation autre que consentie, et il jure aussi que les normes sociales, il y a quelques dizaines d'années, puisque ce sont des témoignages qui s'échelonnent, comme d'ailleurs assez souvent, on pourra peut-être parler de ça, Laure Murat, mais sur cette longue période, il dit les normes sociales avant n'étaient peut-être pas les mêmes il y a quelques dizaines d'années. On voit que ce sont toujours les mêmes arguments qui reviennent, il y a un ennemi fuyant là contre lequel le combat est à mener aussi.
Oui, mais je pense que c'est important. Ça, je pense que c'est en effet très important. Dans les années, la fin des années 60, début des années 70, ont éclaté tellement d'affaires, dont celle, par exemple, de Roman Polanski, pour en prendre une comme ça qui est célèbre. En effet, les mœurs, comme on dit, n'étaient pas les mêmes et la mentalité n'était pas la même. Et je pense que c'est très important de le rappeler. Mais que ça soit utilisé comme un argument, je vous signale d'ailleurs que Harvey Weinstein dit exactement la même chose. Les mœurs n'étaient pas les mêmes et je n'ai eu de relation que consentie. Alors, je suis pas en train de comparer les deux. Je suis pas en train de dire que Placido Domingo a été le prédateur comme Harvey Weinstein, j'en sais rien.
Il y a 9 témoignages pour l'instant qui sont anonymes, hein, pour être très clair
oui,
là-dessus.
Oui, je crois qu'il y a 8 chanteuses et 1 danseuse, d'après ce que j'ai vu dans la presse américaine. Mais on verra. Cela dit, de dire que les mœurs n'étaient pas les mêmes, que, en effet, dans les années 70, les mœurs étaient beaucoup plus libre, je veux pas employer ce mot-là parce que c'est pas une liberté que de se faire violer, hein, c'est pas ça. Mais disons qu'en tout cas, les relations hommes-femmes n'étaient pas du tout les mêmes qu'elles sont aujourd'hui, c'est vrai. Et ça doit être pris en compte. Ça doit être pris en compte, mais ça ne doit pas pour autant excuser des choses absolument inexcusables. Ça peut expliquer un certain nombre d'attitudes, y inclut le silence de ces femmes qui, se faisant violer, ne se rendait à peine compte qu'elle se faisait violer, tellement c'était courant. Donc, ça, tout ça doit être pris en compte, mais comme une explication, sûrement pas comme une excuse, et encore moins comme une légitimation.
Alors, sur les victimes, justement, il y a dans tous les cas qu'on évoque depuis le début de notre entretien, Laure Murat, cette dimension de puissance, de surplomb de l'agresseur par rapport aux agressés, qui crée ce sentiment d'impunité, lié évidemment au contexte que vous évoquiez tout à l'heure, au sein de l'entreprise, au sein du lieu de travail. Ce qu'on voit aussi dans le film L'Intouchable Harvey Weinstein, ce qui est clairement expliqué, alors un grand renfort d'effets dramatiques, c'est vrai aussi, on peut remettre en cause la forme du film, mais ce qui est important, c'est de voir à quel point la terreur s'applique de manière extrêmement efficace sur les victimes, face aux puissants. Weinstein incarnait le pouvoir, la richesse, la puissance, il faisait et défaisait les carrières, et par le témoignage des victimes, on entre dans le système, on comprend la terreur, on comprend parfois leur non-réaction.
Mais bien entendu, et ça, en effet, vous avez raison sur le côté dramatisation excessive dans le film, à grand renfort de musique. Mais enfin bon, c'était pas utile de souligner ces effets-là. Je crois que ce qu'on comprend bien, en effet, c'est ce système qui porte un nom. C'est un système d'intimidation. C'est une chose qui est vieille comme le monde. C'est une méthode, vous savez que je suis aussi spécialiste de la psychiatrie du 19e siècle, c'était une méthode en psychiatrie au 19e. Hein, la méthode, il fallait intimider le fou pour lui faire retrouver la raison. Et surtout pour le faire obéir. Alors, Harvey Weinstein a utilisé ça au plus haut degré. Dans le film, il est bien dit, il dit à un moment donné, je suis le shérif de cette ville. Je pense que ça, c'est une phrase qui est très importante. Il le dit d'une façon un peu plus fleurie. Il est dit, bon, mais
oui, vous avez édulcoré le propos, mais c'est ça. Heureusement, je suis le shérif de cette ville.
Je suis le shérif de cette ville. Bon, ben, le shérif, c'est celui qui fait la loi. Ouais. C'est tout. C'est celui qui fait la... Et alors, je trouve que c'est intéressant que le film de Tarantino sorte ces jours-ci. Je ne sais pas s'il est sorti déjà.
Il est sorti aujourd'hui, voilà, en France. Once Upon a Time in Hollywood. Tarantino qui était un des protégés d'Harvey Weinstein, par ailleurs.
Exactement. Qui était évidemment dans ses petits papiers et qui savait évidemment les agissements de son ami. Alors, je suis très intéressé à l'idée de voir ce film et de voir comment il analyse justement ce moment de la fin des années 60, l'année 69 très, très précisément, avec Charles Manson, etc., etc., de voir comment ça fonctionne. Parce que dans un entretien, Tarantino dit la fin des années 60, début des années 70 à Hollywood, c'est le moment où les films de cow-boys commencent à baisser et la série policière reprend le relais. Je remarque que le shérif est celui qui fait la jonction entre le cow-boy et la police, et la série policière. Le shérif est celui qui ne disparaît jamais du film américain. Le shérif continue d'ailleurs d'être le personnage important, un des personnages importants. Et bien Harvey Weinstein, il voulait être celui-là, celui qui ne disparaît pas des films, celui qui fait la loi et auquel on obéit. quand bien même est-il totalement corrompu, comme c'est souvent le cas dans les films.
69, c'est un moment de bascule probablement pour l'industrie cinématographique à Hollywood, un peu comme aujourd'hui. Brad Pitt, à propos justement de la sortie de ce film, a été questionné sur l'affaire Weinstein. Brad Pitt qui était à l'affiche de Once Upon a Time in Hollywood, il dit « Je pense qu'on est en phase de recalibrage, dans le bon sens du terme. Quand j'ai démarré, j'adorais Mickey Rourke et Sean Penn, je les adorais parce qu'ils étaient puissants. Et c'était comme ça qu'on m'avait expliqué que les hommes devaient être. Ce que je vois maintenant, c'est une nouvelle masculinité, en particulier chez ceux qui ont été sujets à la recalibration de Hollywood, un nouvel homme plus vulnérable. » Ça, c'est Brad Pitt dans le texte, Laure Murat.
Oui.
vous validez ce genre de d'analyse sur l'évolution de l'homme et de l'image de l'homme, notamment à Hollywood et donc partout dans le monde?
Je crois qu'il faut faire attention de ne pas opposer la puissance et la vulnérabilité. Je pense que ça, c'est une erreur. Je pense qu'on peut être très puissant sans avoir tous les atours de cette puissance épouvantable qu'avait Harvey Weinstein. Je crois qu'on peut être très puissant en étant doux. Hein. C'est très important ça, de penser ça. Et de ne pas mettre la puissance, parce que je crois qu'on confond la puissance et le pouvoir. Et je crois qu'on peut être très puissant sans brutalité, par exemple. On est peut-être même plus puissant quand on n'est pas brutal. On est même sûrement plus puissant. Et je crois que là, il faut faire attention dans ces attributs de la virilité à ne pas confondre le machisme, par exemple, et la virilité.
Là, il y a un poids évidemment qui pèse sur Hollywood, puisqu'ils sont aussi producteurs évidemment d'images et de mythes. Dans quelle mesure, quand même, Laure Murat, rapidement, on reprendra cette discussion après le journal de la culture qui arrive avec Natacha Trieu. Dans quelle mesure les choses ont quand même, selon vous, progressé depuis 2 ans et depuis cette affaire Weinstein en termes de libération de la parole, on l'a dit, mais en termes de rapport entre les femmes et les hommes?
Écoutez, c'est très difficile de répondre en une phrase à ce genre de question, mais je pense que tout le monde a une idée plus ou moins vague ou plus ou moins précise de ce qui se passe. Regardez autour de vous, regardez si on fait toujours les mêmes plaisanteries, par exemple. Ça me frappe. Dans l'humour, il y a beaucoup de choses qui changent. Je pense que quelqu'un comme Jean-Marie Bigard, par exemple, ne pourrait plus se produire vraiment avec grand succès aujourd'hui. Comme Michel Leeb aurait du mal à faire ses sketchs ridicules et honteux sur les Noirs. Vous voyez, bon, donc les choses évoluent, elles évoluent lentement, mais je pense qu'elles évoluent d'abord dans le langage, dans la... Alors, vous parlez de libération de la parole, il y a une féministe qui s'appelle Geneviève Fraisse qui préfère parler de prise de parole, ce que je pense qu'elle a raison. Et je pense que sans doute les femmes se laissent moins faire, ça c'est certain, et parlent davantage. Tout ça, ce sont des petites choses, mais que j'observe à mon niveau, mais comme n'importe qui peut l'observer, que ce soit à Los Angeles où j'habite, ou en France, ou n'importe où.
Laure Murat, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. Il y a d'abord le journal de la culture qui arrive sur France Culture.
Merci.
France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Mr. Weinstein intends to enter a plea of not guilty. We intend to move very quickly to dismiss these charges. We believe that they are constitutionally flawed. We believe that they are not factually supported by the evidence, and we believe that at the end of the process, Mr. Weinstein will be exonerated.
Does he maintain that these relationships were consensual?
Mr. Weinstein has always maintained that any sexual activity he engaged in was consensual. Thank you very much.
Voilà, l'avocat de Harvey Weinstein, Benjamin Braffman, qui s'exprimait au moment de la comparution de son client il y a 2 ans après les révélations de l'affaire Weinstein, expliquant l'accusé allait plaider non coupable et que tout allait être démontré sur l'innocence d'un homme qui n'a eu que des relations sexuelles consenties à l'occasion de la sortie de ce film documentaire en salle à partir d'aujourd'hui, dont a été tiré cet extrait, un film assez troublant sur l'intouchable Harvey Weinstein, réalisé réalisé par Ursula McFarlane. Nous faisons un point ce matin avec notre invité Laure Murat sur les suites et les retombées deux ans après du mouvement MeToo. Ce film qui donne la parole à de nombreuses victimes de l'ancien producteur star d'Hollywood pose le problème peut-être de ne s'intéresser qu'à un homme et de ne faire qu'effleurer la question du système autour de lui. Système dans l'entourage, on en parlait, système fondé sur le pouvoir et le capitalisme, sur le patriarcat aussi, mais c'est une réflexion tout de même intéressante précisément sur le milieu du cinéma. Laure Murat, vous êtes toujours avec nous, professeur à l'Université de Californie, Los Angeles. Je rappelle que vous avez publié un essai l'an dernier chez Stock, Une révolution sexuelle, point d'interrogation, réflexion sur l'après Weinstein, l'homme qui était le plus remercié lors des cérémonies des Oscars, connaît la disgrâce, il est déchu depuis deux ans, il ne produit plus rien, il vit avec un bracelet électronique, il est aussi désormais lui-même l'objet de production cinématographique. On peut y voir un phénomène de catharsis peut-être qui ne va pas très loin, ou bien alors une réponse, la réponse d'une femme de cinéma d'ailleurs, la réalisatrice, qui prend le pouvoir et qui explique. Vous nous dites que l'après Weinstein, c'est rien de moins que la première remise en question moderne, sérieuse, du patriarcat dans son articulation autour du capitalisme. On en voit encore un exemple aujourd'hui.
Oui, enfin, une fois de plus, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas faire de Harvey Weinstein un monstre. Je pense que c'est le même défaut lorsqu'on dit que Donald Trump est fou. Hein.
Mais c'est justement le problème c'est le problème que pose ce film. Il y a que Harvey Weinstein.
C'est le problème que pose le film. C'est absolument le problème que pose le film. Et il a tendance à faire de Harvey Weinstein quelqu'un, alors d'exceptionnel sûrement, mais un monstre unique. Or, ce n'est pas du tout ça. Ce qu'il faut, regarder, c'est le système. Si vous faites de Harvey Weinstein un monstre unique, vous videz toute la problématique de son intérêt. Et une fois de plus, c'est comme quand vous dites que Donald Trump est fou. D'abord, c'est très insultant pour les fous, d'une part. Et d'autre part, ça vide absolument de tout son contenu politique et idéologique la pensée ou le programme de Donald Trump. Donc, il faut surtout pas faire ça.
Et il faut se pencher sur la question de l'impunité dont bénéficient les agresseurs sexuels, d'autant plus quand ils sont puissants. L'impunité qui s'explique aussi, expliquez-vous dans votre livre, Laure Murat, par le fait que la loi protège les institutions plus que les victimes. Vous rappelez l'affaire Larry Nassar, autre affaire très très marquante aux États-Unis au début de l'année 2018. Hein, ostéopathe à l'université du Michigan qui s'est rendu coupable d'agressions sexuelles et de viols sur des centaines de jeunes gymnastes. Il a fini par être condamné, mais il a été très longtemps protégé, notamment par l'université du Michigan pour laquelle il travaillait.
Il a été protégé par l'université du Michigan, par la Fédération olympique de gymnastique américaine, etc., etc. Il a été protégé par plein de gens. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi une équipe de gymnastique fonctionnerait mieux avec un prédateur sexuel que sans ? Ça, c'est aussi un problème à étudier. Pourquoi à l'université de Californie du Sud, USC, on a laissé agir un gynécologue qui s'en prenait à des étudiants, en particulier asiatiques?
En connaissance de cause, hein, c'est ça le problème. Et c'est ce que vous dites, c'est que les États-Unis ont une juridicisation du système, mais qui finalement ne protège pas les victimes, quoi.
Et non, et ça c'est un paradoxe, parce que c'est quand même un pays qui réfléchit beaucoup à ces questions, mais qui se dote d'un arsenal juridique qui devient tellement complexe que finalement le problème à résoudre n'est pas la victime, ni d'ailleurs le prédateur, mais l'institution. C'est l'institution qu'il faut préserver à tout prix. Et ça, on voit bien que ça crée d'énormes problèmes. Parce que ce que les États-Unis veulent mettre toujours en avant, je peux vous donner 1000 exemples de ça, c'est ce qu'on appelle en anglais liability management, c'est-à-dire la gestion des dommages potentiels. Alors, mieux vaut couvrir une affaire plutôt que de ternir la réputation d'une institution. Et ça c'est un gros problème, et d'ailleurs, ça se traduit par ces clauses dans les contrats qui sont ou qui étaient, parce que je crois que c'est fini, tout à fait légal, qu'on peut acheter le silence de quelqu'un si nécessaire.
On peut faire un parallèle avec l'affaire Jeffrey Epstein, du nom de cet homme dont on n'a pas encore parlé, homme d'affaires retrouvé mort dans sa cellule à New York samedi, accusé d'avoir organisé lui un réseau de prostitution pédophile avec de jeunes mineurs pour lui et pour quelques-uns de ses amis aussi très puissants, avec là un problème aussi qui est lié à la justice, puisqu'il a été condamné une première fois avant d'être assez vite libéré.
assez vite libéré par l'ancien ministre de Donald Trump, qui à l'époque...
Alexander Acosta.
Alexander Acosta, exactement, qui était à l'époque procureur, je crois, je ne sais plus. Enfin, il était dans le système judiciaire et il a fait en sorte que Jeffrey Epstein puisse avoir une peine extrêmement légère et s'en sortir à bon compte. Donc, on voit bien qu'il y a un effet de concaténation, enfin de solidarité entre hommes puissants qui fait que tout ça peut perdurer.
En France, on ne réagit pas forcément de la même manière, Laure Murat, parce que dans votre livre, Une révolution sexuelle, vous faites le parallèle, puisque vous vivez entre la France et les États-Unis, entre les deux systèmes. Alors en France, on ne réagit pas judiciarisant à outrance, mais on n'a pas forcément plus de résultats concrets en matière de réparation, en tout cas pour l'instant. Peut-être même moins d'ailleurs.
Non, et c'est ça qui a été une de mes découvertes les plus, qui m'a laissé perplexe d'ailleurs, puisque les États-Unis, avec leur arsenal juridique absolument effrayant, et la France, qui est beaucoup moins dotée, eh ben, arrive à peu près au même résultat. Parce que quand vous savez que 1% des violeurs sont derrière les barreaux, eh ben, c'est le même chiffre aux États-Unis qu'en France. Alors comment est-ce qu'on arrive à des chiffres aussi effarants? C'est ça qu'il faut essayer de comprendre, mais pour ça, il faut mettre ensemble beaucoup de gens, à la fois des chercheurs, des sociologues, des politiciens, des médecins, que sais-je. Donc, c'est le système Harvey Weinstein n'est que évidemment la pointe de l'iceberg. Et on peut penser d'ailleurs que cette affaire, c'est un peu comme une pyramide qui repose sur sa pointe. Là, la pointe s'est cassée et c'est toute la pyramide qui s'écroule. Mais avant de reconstruire un monument qui se tienne, il va falloir analyser beaucoup de choses.
Alors, c'est une pyramide qui s'écroule dans le monde du cinéma. Vous consacrez une large partie de votre ouvrage, Laure Murat, au cinéma, en particulier peut-être parce que vous vivez à Los Angeles, en partie. Vous dites qu'il faut revoir l'histoire du cinéma. Il n'est pas question de censurer les œuvres de Roman Polanski. Vous parlez de Woody Allen également dans votre livre, qui a eu aussi quelques pratiques qu'on peut réprouver. Il n'est pas question de censure, mais peut-être il faut profiter de ces affaires, de ces moments-là, pour revoir l'histoire du cinéma de manière un peu différente, avoir un regard qui soit au goût du jour.
Oui, je crois que ce qui est... Alors là, il y a deux choses dont vous parlez et qu'il faut peut-être différencier. C'est-à-dire qu'il y a les agissements privés de certains réalisateurs, de certains acteurs, etc. Bon, là, on a parlé de l'affaire Polanski ou de l'affaire Woody Allen. Et finalement, Woody Allen a été exonéré deux fois. Hein. Bon, donc, voilà, il y a aussi un système judiciaire qu'il faut comprendre les mécanismes. Et puis, il y a l'histoire de la représentation. Hein, la représentation au cinéma des femmes et des rapports hommes-femmes au cinéma. Il est évident, donc là, d'un côté, il y a des agissements qui sont sous le coup de la loi, hein, et de l'autre, il y a un système de représentation qui est de l'ordre esthétique. Donc ça, c'est deux choses tout à fait différentes. Pour ce qui est de la représentation esthétique des rapports hommes-femmes au cinéma, il y a évidemment ni censure, ni consigne, ni programme à donner. Qui pourrait faire ça? Et ce serait complètement absurde. Donc ce n'est pas la question. En revanche, que l'histoire du cinéma, l'histoire de la littérature, on pourrait en parler aussi, réfléchissent à la façon dont on représente les femmes et les rapports hommes-femmes et le mécanisme de domination et la misogynie, et cette misogynie qu'on diffuse presque malgré soi, en retombant toujours dans les mêmes clichés. Ça me paraît très intéressant. Alors, si on regarde l'histoire du cinéma, vous pourriez faire la même chose, parce que, évidemment, c'est toujours très sensible, notamment en France, puisqu'on vous sert toujours l'argument de la galanterie, etc. Mais prenez le racisme, par exemple. Si vous regardez avec un œil neuf, éveillé aux problèmes d'aujourd'hui, avec la pensée décoloniale, etc., les films depuis, disons, les années 60, les films, je parle, mainstream, c'est-à-dire des films à succès, bon... si vous regardez ça d'un œil contemporain, vous pouvez comprendre comment les choses ont été représentées, comment elles ont évolué. Ça, il me semble que pour un cinéaste, je serais cinéaste, ça m'intéresserait de renouveler la forme, puisqu'il s'agit de ça, hein, il s'agit de forme. La forme dans laquelle on représente les femmes et les rapports hommes-femmes.
Question de regard masculin, c'est ce qu'on appelle le male gaze. Laure Murat, expliquez-nous ça.
Oui, alors on en a en effet beaucoup parlé. C'est une intellectuelle britannique qui s'appelle Laura Mulvey qui a inventé cette expression de male gaze, le regard masculin, qui est à la fois celui du metteur en scène, de l'acteur et du spectateur. On lui a reproché après en lui disant, mais des spectateurs, il y a aussi des spectatrices dans la salle, en effet. Mais on peut très bien imaginer que des femmes peuvent aussi avoir le male gaze, précisément en regardant un film. C'est simplement une série, si vous voulez, appelons ça des préjugés ou des idées préconçues, voilà, qu'on a sur les rapports hommes-femmes, sur justement la puissance qui serait du côté des hommes, la vulnérabilité qui serait du côté des femmes, que nécessairement... Mais vous savez, regardez Game of Thrones, par exemple, qui est cette série qui a tellement de succès. Il n'y a pas un épisode où il n'y a pas un viol. Bon, c'est peut-être problématique, ça. Qu'est-ce que ça dit de notre société? Je ne dis pas qu'il faut condamner Game of Thrones pour ça, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut le censurer. Je pose la question, qu'est-ce que ça dit de notre société, de la façon dont on pense à tout ça?
Mais se poser ces questions, c'est peut-être justement une chance, l'occasion de revoir les représentations. Alors vous prenez d'autres exemples, celui de Blow Up, par exemple, de Michelangelo Antonioni. Vous dites que là aussi, il faut le revoir. Il y a ce test de Bechdel qui est de se poser la question, et ça c'est très intéressant dans votre livre, Laure Murat. Le test de Bechdel, c'est la question suivante. Y a-t-il deux personnages féminins identifiables dans l'histoire, ayant une conversation ensemble, portant sur un sujet autre qu'un personnage masculin? Ça vient de Virginia Woolf, hein.
Ça vient, oui, originellement, ce que je ne savais pas, d'ailleurs, je l'ai découvert en écrivant le livre. Ça vient de Virginia Woolf qui se posait la question, justement, dans la littérature, s'il y avait, voilà, si toutes ces conditions étaient réunies. Et le test de, si vous faites le test de Bechdel, et tous les films ne passent pas le test, hein. La plupart des films ne passent pas le test. Donc, ça aussi, je trouve que c'est très intéressant, parce que ça veut dire que nous n'avons pas, je dis nous, à nous collectif, universel, nous n'avons pas les représentations pour penser les femmes en tant que sujet. C'est une affaire de subjectivité. Les femmes ne sont pas des sujets, elles sont des objets, l'objet du désir des hommes. Alors évidemment, je parle d'une façon très générale. Bon, on pourra citer des contre-exemples, évidemment. Alors, ben, disons que c'est l'immense majorité. Elles sont l'objet du désir des hommes. Et pourquoi pas? Je suis pas en train de dire que c'est mal. Simplement, je suis en train de dire que c'est systématique. Et que là, il y a un gros problème qui vient évidemment aussi du fait que les réalisateurs sont 90% des hommes, que les femmes n'ont jamais eu très rarement des distinctions à table, etc., etc. Donc c'est tout le système, évidemment, qui est en cause.
Il y a fort à parier que l'affaire Epstein, par exemple, parce qu'elle repousse quand même les limites entre la réalité et la fiction, pourra se retrouver à Hollywood, scénarisée ou en tout cas mise en image. Alors vous évoquez Orange Mécanique, Le Dernier Tango à Paris, Les Valseuses. Vous remontez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, jusqu'à la littérature, Faulkner. Le problème aussi, c'est que la violence, et notamment la violence envers les femmes, c'est quelque chose qui attire et qui fait vendre.
Mais bien sûr, c'est ce que Faulkner avait, c'est ce dont Faulkner s'était rendu compte.
Hein.
Oui, dans Sanctuaire, enfin, avant d'écrire
Sanctuaire. Pour écrire Sanctuaire,
voilà. Il s'est dit, bien, maintenant j'ai besoin d'argent et je vais faire un livre qui aura du succès. Et il a fait Sanctuaire, qui est un chef-d'œuvre absolu, mais qui est quand même l'histoire d'un viol épouvantable et de l'exploitation d'une femme dans un bordel. La violence, ça marche, bien entendu. Alors, moi, j'aime beaucoup cette phrase de Gloria Steinem, qui est une féministe américaine bien connue, et qui dit qu'il faut érotiser l'égalité, rendre l'égalité plus érotique, voilà, plutôt que le viol. J'espère, en tout cas, qu'on va y arriver. En tout cas, c'est une des grandes vertus du mouvement MeToo que de remettre toutes ces questions à plat.
Qu'on se cache par construction derrière le puritanisme à l'américaine ou qu'on excuse la galanterie à la française, vous en parliez tout à l'heure, Laure Murat, les effets sont les mêmes d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, les progrès sont lents.
Vous savez, je fais le parallèle dans le livre avec l'écologie. Bon, moi j'ai 52 ans, il y a 40 ans quand j'étais enfant, on jetait des papiers par terre, on fumait dans les cinémas, etc., etc. Toutes choses qui sont impensables aujourd'hui. Impensables. Il y a encore des gens qui jettent des papiers par terre, sûrement. Mais enfin, bon. Là, pour que on prenne conscience d'un problème, et aujourd'hui le problème est gravissime en ce qui concerne l'écologie, il faut, je dirais au bas mot 40 ans, il faut plusieurs générations. Et je pense que là, on est au balbutiement du mouvement. J'espère vivre assez vieille, ça m'étonnerait, enfin, pour voir un changement véritable, parce que ce dont il s'agit, ce sont les mentalités. Et c'est affreusement lent de changer ça. Je pense que la fameuse tribune de Neuve qui plaidait pour un droit,
le droit à l'homme
à importuner les femmes, ce qui est quand même, quand même de dire ça même aujourd'hui, ça paraît tellement absurde, est une survivance de cette mentalité-là dont il va falloir, à mon avis, au bas mot, 20, 30, 40 ans pour s'en sortir.
D'autant qu'il y a des...
Mais on est dans la bonne direction, je crois.
On est dans la bonne direction et en même temps, il y a parfois des retours. On voit dans ce film l'intouchable Hervé Weinstein. Ben Hervé Weinstein est arrivé au moment de sa comparution avec sous le bras deux livres et vous en parlez dans Une révolution sexuelle, réflexion sur l'après-Weinstein, dont un d'Elia Kazan.
Oui.
Ce qui n'est pas anodin, expliquez-vous.
Non, c'est pas les deux livres. Alors maintenant, l'autre c'est sur deux personnages très importants à Broadway, et l'autre était sur Elia Kazan, qui a été évidemment victime du macartisme. Alors on a parlé pendant un temps de une sorte de chasse aux sorciers. Hein. C'était le titre d'un article qu'Elisabeth Badinter avait consacré à Clarence Thomas, qui était ce juge accusé de harcèlement sexuel par Anita Hill il y a très longtemps, il y a 30 ans. Il n'y a pas de chasse aux sorciers, il y a maintenant une justice. Il faut faire justice à tout ça. Alors, bien entendu, c'est beaucoup plus simple de se considérer. Harvey Weinstein renverse le paradigme et se dit lui-même victime d'une chasse aux sorcières. Alors que, évidemment, parce que, prétend-il, évidemment, il a fait la carrière de plein de femmes et maintenant on se retourne contre lui. Il a surtout brisé tellement de vies. C'est surtout ça qu'il faut voir.
Merci beaucoup, Laure Murin, d'avoir pris le temps de discuter avec nous sur France Culture ce matin. Une révolution sexuelle, point d'interrogation. La réponse n'est pas tout à fait donnée. Réflexion sur l'après-Weinstein, c'était chez Stock l'an dernier. C'est toujours disponible. Merci à vous. Il est 8h54 sur France Culture.